Avoir 15 ans, c'est comment? Rêver, désirer, aimer, se révolter aussi, avoir 15 ans. Mais où? Kaboul, Port-au-Prince, Tunis, Paris, avec quelles armes, quels sentiments, quelle énergie, quel espoir? Avoir 15 ans, c'est beau et c'est terrible, inégalité du monde. Il a 15 ans et il dit sa vie, son amour, sa détresse. Il a 15 ans et ne regrette rien, ne regrette pas d'avoir tiré sur son père, sur le maire et sur un ministre. Monologue fiévreux et terrible, le nouveau roman de Yamène Manaï est un cri. Après L'amas ardent, sacré meilleur roman francophone en 2017 grâce au prix des 5 continents, voici donc Bel Abîme. Bonjour Yamène Manaï.
Bonjour.
Vous vous souvenez de vos 15 ans?
Très bien.
Il se passait quoi?
Une grande révolte, une envie de justice, d'idéal, une aspiration pour un monde meilleur que ce que je voyais déjà.
C'était en 1995, vos 15 ans, et vous étiez en Tunisie.
Tout
Ben
à fait.
Ben Ali était président.
Tout à fait. Je sentais déjà le poids de sa présence, de ses photos partout dans les commerces, de ce parti unique, de ce vote unique.
Et vous rêviez d'écrire?
Je lisais beaucoup. Je n'avais pas forcément l'intention d'écrire parce que je lisais beaucoup de grands écrivains et j'avais l'impression qu'ils étaient habités par quelque chose qui me dépassait, quelque chose de divin. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir m'approcher de la cour de ces grands écrivains que je lisais quand j'étais enfant.
Donc vous étiez plutôt dans votre chambre que dans la rue?
J'étais dans les deux. J'étais dans les deux parce que à l'époque où j'ai grandi dans les années 80-90 en Tunisie, les enfants, ils n'avaient pas énormément de distractions dans leur chambre et on se retrouvait tous dans la rue à jouer, à essayer d'échapper à la dictature familiale.
Aussi la dictature familiale.
Aussi, ouais, aussi. C'est une société patriarcale avec un poids très imposant de l'autorité et pas beaucoup d'espace, en tout cas. Dans ma jeunesse, pour l'expression enfantine et adolescente.
Vous rêviez d'Europe ou vous rêviez d'ailleurs ou vous pensiez que la Tunisie était le seul endroit au monde?
J'avais découvert des choses merveilleuses grâce à la littérature quand j'étais en Tunisie, à la littérature traduite. Donc je lisais beaucoup de romans, que ce soit français ou anglo-saxon, traduits en langue arabe, avant d'accéder à la langue française comme langue de passion. Et j'ai découvert aussi des choses merveilleuses qui se passaient en France, qui m'ont donné l'envie de venir et m'installer. Ce sont par exemple les Guignols de l'Info, les Inconnus, le Canard Enchaîné, tout ce dont on était privé en Tunisie et qui faisait la splendeur de la liberté d'expression qu'on connaît ici et qu'on doit encore défendre parce qu'aujourd'hui, même en France, je trouve qu'elle est un peu égratignée.
En France, avoir 15 ans, on dit que c'est avoir l'âge bête souvent. Est-ce qu'on dit la même chose en Tunisie?
Je trouve qu'avoir 15 ans, c'est justement l'âge le plus peut-être intelligent parce qu'on a des idéaux, on a des aspirations et plus on grandit, plus on apprend le compromis et peut-être même la compromission. Donc non, je ne considère pas que c'est l'âge bête, je considère qu'on s'abrutit malheureusement au fur et à mesure si on n'entretient pas son âme avec des livres et de l'art. Et donc j'espère que tous les auditeurs l'entretiennent de cette façon.
Votre personnage dans Bel Abîme, Yamène Manaï, a donc 15 ans. Il tire sur son père par vengeance parce que celui-ci a tué son chien. C'est un acte que vous comprenez. Est-ce que vous êtes en empathie avec votre héros? Mais peut-on écrire quand on est écrivain sur un personnage sans empathie? Je ne sais pas, c'est la question annexe.
Alors, je me suis senti totalement habité par ce personnage parce que j'avais l'impression vraiment intimement de le connaître. Et je dirais que ce n'est pas par souci de vengeance qu'il a tiré sur tous ces gens, mais plutôt par souci de justice. Et donc, il a considéré que ces personnes avaient une dette à payer. Et ce n'est pas parce qu'un chien est un chien que sa vie ne vaut pas grand-chose. Pour certaines personnes, un chien, c'est beaucoup plus qu'un homme. Et pour cet adolescent-là, ce chien-là représentait tout ce dont il a été privé dans son enfance, l'attention, l'amour, la joie. Et alors, lui, le priver de tout ça, lui enlever ça, c'était pour lui quelque chose de terrible. Et il fallait que les personnes qui ont participé à ce complot le payent d'une façon et d'une autre. Et
Donc
donc.
c'est un acte mature. Il dit avoir 15 ans, mais il dit aussi qu'il se sent vieux de 2000 ans.
Oui, parce que, comme on dit aux Zambiennes,
La valeur n'attend
la
pas le
valeur
nombre
n'attend
des
pas le nombre
années.
des années, tout à fait. Alors lui, grâce à sa condition de lecteur, il a certainement vécu plusieurs vies, parce que c'est un personnage qui lit, qui aime les livres, et donc qui a beaucoup voyagé à travers ses livres, qui a acquis une certaine expérience de la vie grâce à ses livres. Donc, il se considère plus mûr et par les expériences qu'il a vécues, par les injustices répétées, que ce soit dans le cercle familial, dans la rue, à l'école, et ben en fait, il se sent un petit peu vieux et il sent qu'il a une sorte de poids énorme sur ses épaules. Et dans ce sens-là, il pense qu'il a gagné en maturité et qu'il a dépassé le stade d'enfant assez tôt.
Yamène Manaï, vous allez nous raconter ce qui vous a amené à écrire ce roman Bel Abîme, après avoir écouté un extrait du nouvel album de Rodolphe Burger, Glück auf, ici en duo avec le chanteur breton Éric Marchand.
Daou lag a traoù bell an Gouleier beo min noz Tapad war ar ver en u et duen Miz et treit per kadaou ek Per kadaou et ar meo dan en yol Gouleier bal a fenn Vipet del djerre oa lein ur c'hor E ne yo zein eus el deus e brod Vir an i vetri bol ciel Et an sel en ol chvel J'ai quitté la boîte, et j'ai quitté la ville, j'ai jeté les dés, et j'ai choisi le nord. Je l'ai vu de loin, j'ai revu son profil, j'ai senti son parfum, j'ai deviné son corps. Elle venait de l'Est, elle aimait le Sud. J'ai jeté le dé et j'ai choisi le nord. J'allais tomber sur elle, j'allais tomber encore. Elle allait me croiser et me jeter un sort.
Casanova sur RFI, nouveau titre de l'album de Rodolphe Burger, ici avec Éric Marchand. Yamène Manaï est aujourd'hui notre invité pour son très beau roman Bel Abîme, qui est donc l'histoire d'un adolescent tunisien désespéré qui passe à l'acte, qui va venger la mort de son chien ou faire justice, comme vous nous le disiez, Yamène Manaï, et qui s'adresse à son avocat. C'est un monologue adressé, mais ça commence très fort parce qu'il l'insulte.
Oui, il a une aversion envers les adultes qui peut se comprendre. Et en fait, cet avocat vient et lui propose son aide. Et lui, il n'arrive pas très bien à comprendre cette démarche parce qu'en fait, il dit à son avocat que les personnes qui sont les plus proches de lui ne lui ont jamais proposé leur aide. Alors, il ne comprend pas la main tendue d'un inconnu. Et il continue dans cette défiance jusqu'au bout.
Les gros mots en arabe, dites-vous, sont encore plus vulgaires qu'en français. Pourtant, les quelques-uns que vous utilisez en français n'ont pas à être prononcés ici à ce micro.
Après, en fait, c'est un adolescent qui parle Et les sons retenus, sans filtre. Il y a quelques mots qui sont de ce langage-là, mais c'est vrai que comparé à la langue tunisienne et aux gros mots de la langue tunisienne, les gros mots français paraissent vraiment très doux. On a des mots assez crus, qui sont très imagés, qui renvoient à des choses très, très concrètes et très crues, que j'oserais pas dire là. Et c'est aussi une violence du langage dont on se passerait bien.
Donc nous allons faire une émission prude, sans utiliser ces gros mots, même si ce personnage n'a pas tout à fait sa langue dans sa poche. Donc c'est un enfant non aimé, c'est un enfant quasiment rejeté. Le père est absolument épouvantable, c'est un horrible personnage. La mère est très religieuse. Et puis un jour arrive un chien et le jeune garçon recueille ce chien et ça devient une histoire d'amour.
C'est dans les yeux de cette chienne qu'il a recueilli, de ce chiot qu'il a tenu entre ses mains. Et pour les personnes qui ont eu cette expérience, on sait très bien qu'un petit chiot est vraiment minuscule, hein, il tient dans la main. Et donc, ce petit garçon a tenu ce chiot dans sa main, et il a vu dans ses yeux une sorte de tendresse, d'affection qu'il n'a jamais vue nulle part. Et pour lui, c'était quelque chose dont il pouvait plus se passer. Et c'est devenu une relation fusionnelle, une histoire d'amour puissante, comme les histoires de tous ceux qui ont des chiens. Je veux dire,
Et vous parlez d'âme en fusion, c'est peut-être un peu exagéré.
je pense que ça peut être exagéré pour les personnes qui n'ont jamais vraiment eu de chien et qui ne comprennent pas forcément cette relation. Mais il y a des romans magnifiques déjà qui ont traité du sujet. Je pense par exemple à Croc-Blanc de Jack London, et on peut se dire que là, le chien, il est autre chose qu'un chien, et on a tort de considérer juste les chiens comme des chiens. Voilà.
Votre personnage n'a pas de nom, le chien, si.
Oui.
Elle s'appelle Bella.
Oui, Bella, oui.
C'est volontaire, bien sûr.
Oui, ça, elle est cette beauté qu'on espère de la Tunisie. Elle représente cette Tunisie qu'on est en train de perdre et qu'on est en train d'assassiner. Elle est très symbolique, et l'enfant est anonyme parce qu'en fait, c'est un enfant tunisien comme il y en a plein d'autres. Donc Bella, elle est nommée, elle est un symbole, et l'anonymat du personnage principal est aussi symbolique pour moi.
Mais la situation, l'action se passe dans une société religieuse, une société musulmane, et le chien, nous dites-vous, c'est tabou.
Le chien est impur dans la religion musulmane parce que il se lèche le derrière, et du coup on considère que sa bave invalide les ablutions du musulman. Donc il faut surtout pas s'approcher d'un chien pour rester propre. Et il y a même certaines paroles du prophète qui autorisent le chien uniquement pour la chasse. Et du coup en fait ce compagnonnage, cette phrase dont on dit le chien est le meilleur ami de l'homme, en fait, pour beaucoup de musulmans, malheureusement, on est privé de cette relation, on est privé de cette amitié qui est vraie.
Mais donc c'est une provocation si ce jeune narrateur, ce jeune adolescent, amène un chien, dans la maison.
C'est un acte de révolte, peut-être même un acte révolutionnaire. Il a emmené ce chien, sachant qu'il aura des problèmes à la maison et qu'il devait l'assumer. Et c'est un acte d'émancipation aussi, parce que en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est senti responsable et qu'il s'est senti grandir et devoir affronter le monde des adultes, le monde des injustices. Et c'était son salut passé par là.
Yamel Manaï, diriez-vous que votre roman est une parabole ou un conte sur la société tunisienne?
J'ai l'impression de me spécialiser peut-être un petit peu dans ce type de récit parce que les animaux sont toujours présents, la nature est toujours présente dans ce que j'écris. J'ai une sensibilité écologique, je pense qu'elle est générationnelle aussi. Et du coup, je ne peux pas écarter de l'équation l'écosystème qui nous entoure. Mon roman Lama Ardent parlait déjà d'abeilles, et donc ça lui donnait un côté fabuleux. Et cette relation-là, avec le chien, Bella, tout ce qu'elle représente, donne certainement un aspect fabuleux au récit. Il n'en demeure pas moins un récit qui est vraiment très concret, très lié à la réalité tunisienne. Et c'est justement cette réalité tunisienne qui m'a emmené à l'écrire.
Alors la Tunisie qui a fait sa révolution il y a 10 ans, on l'a célébrée là il y a quelque temps et qui vit depuis le 25 juillet sous un régime d'exception, il faut écouter la rue.
10 ans après la révolution, c'est toujours le même topo. Misère, chômage, discrimination et répression policière. Qu'est-ce qu'on y a gagné? Rien du tout. Aujourd'hui, on refait notre révolution et on va faire tomber le régime. Au nom de tout le sang versé et de la liberté, on ne laissera pas tomber et on ne reculera pas.
Ah bah, l'oppression!
Une partie de la population est restée sur le carreau. C'est vrai que le processus de réforme enclenché après la révolution a mis la démocratisation en marche, instauré la liberté de parole et mis en place un système parlementaire. Mais le quotidien de beaucoup de Tunisiens est toujours marqué par la misère, surtout dans les banlieues. Pour le moment, l'État n'a toujours rien entrepris pour eux. Bien au contraire, c'est lui qui est directement responsable de cette situation.
La rue tunisienne en juillet dernier, c'était juste avant que le président Kais Saïd s'arroge les pleins pouvoirs. Votre roman, Yamen Manaï, ne parle pas de ces événements directement, mais le titre du livre dit la situation du pays. Bel abîme, c'est pour décrire la situation de la Tunisie.
Tout à fait. J'ai l'impression que ce pays est devenu un bel abîme dans lequel les rêves de la jeunesse s'échouent et n'arrivent pas à émerger. Quand j'ai écrit ce livre, quand je l'ai terminé en janvier de cette année, il y a eu une grande révolution, une grande révolte des jeunes. Beaucoup d'adolescents sont sortis en plein confinement, en plein couvre-feu, pour exprimer leur désarroi face à une situation sanitaire, face à une situation économique. Qui ne présage de rien de bon et un avenir qui leur semblait déjà compromis. Il faut savoir qu'en Tunisie, il y a 300 jeunes par jour qui essayent de traverser la Méditerranée, 100 000 par an qui quittent le système scolaire depuis 10 ans. Donc on a plus d'un million d'enfants, d'adolescents déscolarisés et c'est terrible. Par rapport au futur de cette génération.
Mais vous avez des mots terribles sur la situation politique du pays. Dans ce roman Bel Abîme, vous dites « c'est un pays de monstres aux prises avec la merde et la haine ».
En fait, j'avais envie de faire un récit sans concession et ce récit ne pouvait être porté que par la voix d'un adolescent. Si je parle en tant qu'adulte, je vais prendre beaucoup de recul, je vais nuancer énormément les choses. Et je vais trouver les compromis nécessaires à l'histoire. Mais un adolescent, il vit dans l'instant. Et sa révolte, elle est instantanée, elle est immédiate. Et j'avais envie de ne pas donner de répit ou de cadeau à toute cette caste politique qui nous gouverne en leur accordant le bénéfice de l'avenir. Et j'avais envie de les condamner par cette voie-là qui ne regarde que le présent et qui a du mal à se projeter, comme tous les Tunisiens jeunes aujourd'hui.
En 2018, dans le journal Libération, vous disiez « l'optimisme n'est plus un luxe de l'esprit, c'est une nécessité ». Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ?
Alors, c'est une phrase que j'ai reprise. J'espère que je l'avais citée, mais je le cite toujours. C'est Albert Jacquard qui a dit ça. Et je le pense toujours. Je pense toujours que tant qu'il y a un souffle qui parcourt la poitrine, les espoirs sont permis. Ce jeune-là, il est désespéré, mais... Il a l'avenir aussi devant lui, malgré son incarcération, malgré le poids des charges qui pèsent contre lui. C'est un personnage qui représente tout de même l'avenir de la Tunisie.
Donc il représente l'avenir de la Tunisie et il parle sans filtre, comme vous nous l'aviez raconté, dit Yamen Manaï au début de cet entretien. Dans le livre, cela est donc dit avec ces mots. J'aimerais que vous nous lisiez un passage de votre roman. C'est au début du livre. Le personnage donc raconte à l'avocat ce qu'est la banlieue de Tunis.
Longer nos murs Élysée. Taguer des phrases du genre « Maudit soit celui qui pisse ici, maudit les parents de celui qui dépose ses poubelles ici ». Non, ça ne marche pas. Au contraire, elles aiguisent notre appétit de mal faire, affûtent notre défiance. On lève même plus haut la bite pour arroser au mieux ces injonctions désespérées. Aucun mur ne nous effraie, aucune inscription. On ne craint aucune malédiction, car la malédiction, c'est nous. Car c'est celui-même qui écrit cela sur son mur, qui pisse sur celui du voisin. C'est celui-même qui écrit cela sur son mur, qui jette sa merde contre le mur de son voisin. Le mur, le mur. Le pays va dans le mur. C'est ce que tout le monde dit depuis des mois. Mais un soir, au Café des Sports, Tarek le cerveau a fait ses calculs et a déclaré « À la vitesse à laquelle on y va, je ne crains pas pour le pays, je crains pour le mur. On va le défoncer, on va le niquer et on va passer de l'autre côté de l'espace et peut-être même de l'autre côté du temps. » Autour de lui, tout le monde a ri, de ce rire qui est en fait une autre façon de pleurer.
Bel abîme, Yamen Manaï, votre écriture est au cordeau. Il n'y a pas un mot trop, un mot à côté. C'est un peu comme le plaidoyer que vous faites. C'est implacable.
J'espère n'avoir jamais écrit aussi bien. J'ai eu l'impression vraiment d'être parcouru par un frisson supérieur. J'ai écrit ce livre assez vite, en 5 jours, une semaine à peu près.
En 5 jours ?
C'était 5 jours de fièvre où je dormais quasiment 2 à 3 heures par nuit parce que j'avais la tête tellement pleine que je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Il fallait que je me vide la tête de ce texte, de ce cri, pour que je puisse dormir. Et je dormais juste ce qui était nécessaire avant de reprendre l'écriture.
Mais votre précédent roman, L'amas ardent, qui avait eu le prix de la francophonie des 5 continents, date d'il y a 5 ans. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans? Moi, je me suis dit, pendant 5 ans, il a écrit, il réécrit, coupé, taillé ce livre-là. Non.
Non, en fait, j'étais sur un autre livre. J'étais en train d'imaginer quelque chose d'assez futuriste, je dirais, d'anticipatif, avant que ce livre ne me tombe dessus. Et il m'est tombé dessus à cause ou grâce, je ne sais pas comment le dire, aux députés tunisiens qui n'arrêtaient pas de s'agresser physiquement et verbalement dans l'enceinte du Parlement tunisien. C'était très choquant pour l'ensemble des Tunisiens de se voir gouverner par de tels personnages grossiers, violents au possible. Et c'était pour moi une façon de leur répondre que d'écrire ce livre-là et de les mettre devant leurs responsabilités, devant l'état du pays dans lequel aujourd'hui il est.
Donc c'est un livre de l'urgence qui va droit au but. Ça recoupe un peu ce que mon ressenti, c'est-à-dire d'un livre implacable.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un livre qui est né de l'urgence, d'une certaine frénésie, d'un certain mal-être qui m'a habité quand j'ai vu ce gouvernement, quand j'ai vu ses agissements. Et pour moi, c'était une grande thérapie que de l'écrire, parce que très honnêtement, l'écriture a ce rôle-là pour moi. Elle me soulage et elle me permet de m'exorciser de toutes ces violences-là qui nous habitent quand on est un artiste ou même quand on est un citoyen. On n'arrive pas à la garder pour soi. Il faut qu'elle sorte et la littérature aide à sublimer cette violence et à la transformer en quelque chose de beau.
C'est un livre politique, on l'a dit, mais on ne perd jamais le fil du récit, parce qu'il y a, le conte, il y a le récit. Est-ce que cet art de la narration, c'est votre marqueur? Est-ce que c'est une marque de la littérature tunisienne ou plus généralement arabe?
Je pense que j'étais à bonne école, c'est sûr, avec toutes mes lectures d'enfance. Cet art du conte et de faire des chapitres qui se terminent en s'ouvrant sur les chapitres d'après. C'est un peu l'histoire de Sherazade qui s'arrête pendant une nuit et qui laisse le suspense et qui arrive à garder sa tête sur ses épaules le temps de l'histoire. Je pense que oui, ça doit être quelque chose de culturel qui est que c'est cet art-là, mais je n'arrive pas forcément à me dire que j'ai l'impression qu'il est inné. Je ne le travaille pas forcément. Ce que je travaille plus, c'est plutôt le vocabulaire qu'il y a dans le livre. Comme le français n'est pas ma langue maternelle, j'ai beaucoup d'humilité quand j'écris en français, pas dans le sens de la narration, mais plutôt sur le choix spécifique de certains mots. Je cherche parfois à être plus précis que ce que je ne le suis de prime abord. Donc je cherche des synonymes, je cherche des mots et des fois je tombe sur des mots du vieux français que j'ai du plaisir aussi à ressortir et je me dis bah tiens ce mot-là il sonne bien, il est bien dans le rythme, il n'est plus beaucoup utilisé, il est peut-être un peu méconnu mais il va bien servir la phrase d'un point de vue rythmique, d'un point de vue sonorité et du coup c'est plutôt ce travail-là que je fais sur la langue plutôt que sur la narration.
Du rôle de la littérature, Fawzia Zouhari est tunisienne comme vous. Elle a obtenu le prix des 5 continents de la francophonie comme vous. C'était d'ailleurs l'année précédente, en 2016. Écoutez ce qu'elle dit.
La littérature, c'est vous mettre quelque part et regarder le monde autrement. La littérature, c'est une sorte de sociologie des nuances. Vous n'êtes pas dans l'indignation, vous n'êtes pas dans les chiffres. Vous regardez, vous ressentez. Et je pense que c'est une des meilleures façons de refléter le monde. Mais je veux dire, c'est ça qui était important. Ça me rappelle une fois, j'avais demandé à des amis d'écrire un livre qui s'appelle « 12 musulmans parlent de Jésus ». Et là, on s'était dit, mais non, il ne faut pas faire des recherches, dire « le Coran a dit », etc. Ce sont des écrivains, ils ont dit « voilà, le Christ, c'est moi ». Le Christ, je l'ai rencontré dans un coin de rue. Le Christ, c'est ma mère qui est malade. Et je trouve que les romanciers ont cette façon de rentrer à l'intérieur des choses et de les redire autrement.
Fawzia Zouhari, c'était sur TV5 Monde. Yamène Manaï, que pensez-vous quand elle dit, par exemple, que la littérature, c'est la sociologie des nuances? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est le domaine de la nuance. Déjà, d'un point de vue personnel, je le sens parce qu'en fait, avant d'aborder un sujet par le biais de la littérature, il est brut au fond de moi. Et plus j'écris, plus je trouve les ressorts sociologiques et empathiques qui vont me permettre de ne pas condamner les personnages qu'on pourrait condamner de prime abord si on est face à un article de journal ou face à une... Donc la littérature, elle emmène ça, elle emmène de l'intelligence, elle emmène de l'émotion et permet d'aller plus profond dans les choses. Mais je dirais plus que ça, c'est le domaine de la liberté absolue. Et comme le dit Fawzia, si on a envie de parler de Jésus, si on a envie de parler de Dieu, on a la possibilité de tout dire. Moi qui est scientifique de formation, je sais à quel point on peut être bridé dans sa parole quand on est scientifique, parce qu'on est bridé par ses expériences, par les résultats de ce que nous faisons. Donc on ne peut pas s'aventurer plus loin que ses équations et son labo. Mais quand on est dans la littérature, face à une feuille blanche et avec un stylo, on a la possibilité de tout dire. Et c'est ça qui est formidable.
Votre narrateur dit « La littérature m'a donné des idées, des mots et une force intérieure ». Est-ce que vous auriez pu écrire un personnage qui n'aime pas la littérature ?
J'aurais pu écrire un personnage qui n'aime pas la littérature, mais pour mieux l'aimer tout le long du récit. Peut-être pour faire son éducation à travers les livres. Donc, je reste toujours persuadé qu'on ne peut que aimer la littérature une fois qu'on s'y frotte. Et que les gens qui n'aiment pas les livres, ils le font par ignorance, tout simplement.
Donc il faut leur proposer des livres. Tant qu'il y a des livres, je ferai mieux que survivre.
Tout à fait. Et
c'est le personnage qui dit ça, et c'est vous qui l'écrivez.
Oui, et c'est moi qui le dis aussi, et c'est pour ça également que j'ai fait le choix de cette maison d'édition qui est Ilizad. C'est une maison d'édition tunisienne, elle diffuse en France, donc je suis heureux de voir mes livres dans les librairies françaises. Mais le choix de la maison d'édition et le fait qu'elle soit tunisienne, c'est aussi pour proposer aux Tunisiens une matière à lire. Et c'est très important parce qu'après des années de dictature, on les a fait déchanter du livre.
Merci beaucoup Yamène Manaï. Bel Abîme est donc édité chez Ilizad, maison à laquelle vous êtes très fidèle et qui est formidable. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Olivier Roux à la réalisation. À très vite.